Merci d'être avec nous en osmose. Merci d'être là sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Insta, sur Threads, sur TikTok et sur ce que vous voulez. Vous nous retrouvez également sur le site, bien sûr, avec tous les podcasts. Aujourd'hui, je vous propose de nous balader dans la nature avec Alban Cambe, qui est normalement avec nous de l'autre côté de Skype. Bonjour Alban.
Bonjour Serge, bonjour à tous.
Vous allez bien? Vous devez être en pleine forme, vous?
Bah oui, il fait beau, ça le printemps.
Puis vous êtes toujours dans la nature et vous savez la lire, la nature, c'est ça qui est formidable. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Lire la nature, décrypter les secrets du ciel, des paysages, de la faune et de la flore aux éditions Solar. Avant ce livre, Alban, vous avez sorti un lead qui s'appelle Le grand guide du bushcraft. Et je me demandais ce que c'était que le bushcraft.
Alors le bushcraft, c'est un terme anglo-saxon, effectivement, qui n'est pas forcément transparent. En fait, ça peut s'apparenter à la survie dans la nature, mais la survie douce, si on veut. C'est vraiment la façon de se débrouiller avec les ressources que nous offre la nature pour bivouaquer, pour se nourrir, pour purifier de l'eau, pour s'orienter aussi sans boussole. Donc c'est un ensemble de compétences que maîtrisaient en fait nos ancêtres.
D'accord, c'est pas du survivalisme, c'est du bon sens de nos anciens quelque part.
Non, voilà, exactement.
Vous êtes professeur de sciences naturelles? Je crois que vous préférez qu'on dise sciences naturelles, si j'ai bien compris.
Voilà. Je préfère sciences naturelles, en effet, même si le terme actuel c'est sciences de la vie et de la terre.
Voilà. Vous nous offrez ce livre, Lire la nature. Quelle était votre idée au départ en proposant ce livre?
Alors, moi, j'ai été, lors de mes études à la fac, je suis tombé sur ce que l'on appelle l'hypothèse Gaïa. C'est une hypothèse scientifique qui avait été proposée dans les années 70 par Lynn Margulis et James Lovelock, qui proposait un nouveau cadre de vision pour les sciences de la Terre. Alors, ça a été décrié à l'époque comme faisant partie du mouvement New Age, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, on commence à s'y intéresser de plus en plus. Ça permet de voir la Terre non pas comme un ensemble de compartiments bien séparés, avec la vie, l'atmosphère, les roches, tous bien de leur côté gentiment, mais en fait, de voir la Terre comme un ensemble où tout est en interaction. Et c'est un peu le fil rouge de ce livre, en fait, c'est que je propose au lecteur d'apprendre à reconnaître les différents signes de la nature pour comprendre ce qu'ils peuvent nous dire de l'ensemble des écosystèmes. De ne pas se limiter, en fait, juste à l'observation des nuages, mais de comprendre ce que ça peut nous dire, par exemple, sur les paysages, l'implantation des villes, les microclimats, et du coup, quelles sont les plantes qui vont aller s'implanter à certains endroits, et du coup, quels vont être les animaux qui vont pouvoir arriver également dans ces milieux.
D'accord. D'ailleurs, au début du livre, vous dites c'est un petit peu le mal du siècle. On compartimente tout, on se spécialise au lieu de voir l'impact général. D'où vous-même, en tant que naturaliste, vous avez pas mal de connaissances sur beaucoup de choses. Plutôt qu'un spécialiste, c'est ça ce que vous dites, hein, qui a beaucoup de connaissances, mais sur un seul sujet.
Ouais, c'est la forme de mon propos, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus noble d'essayer de devenir un naturaliste qui peut aller se balader dans la nature et comprendre en fait ce qui l'entoure. Plutôt que, alors sans vouloir être péjoratif non plus, mais plutôt que de se limiter à un domaine bien précis des sciences naturelles, par exemple, je sais pas, la mycologie, d'être excellent en mycologie, c'est passionnant, mais je trouve qu'on perd la richesse du coup de l'observation et de la lecture des paysages.
Du coup, vous nous offrez un livre, mais c'est un condensé, c'est colossal, le nombre d'informations, de données, tout ce qu'on apprend dans ce livre, en je sais pas combien de pages, mais il y a pas mal de pages, et c'est très très concentré. Tout ça, vous l'avez appris au fil du temps, ou alors ça fait partie de votre formation de professeur de sciences naturelles?
Ah, c'est un peu tout. C'est que j'ai été exposé très jeune, grâce à ma grand-mère, aux ressources naturelles, puisqu'elle allait cueillir en bord de chemin certaines plantes qui étaient comestibles. Et petit à petit, j'ai appris effectivement à identifier les différents écosystèmes et les différents signes qui nous donnent des indications sur la santé d'un sol, est-ce qu'il va commencer à pleuvoir. Après, c'est ma pratique du bushcraft aussi, le fait de m'enfoncer régulièrement dans la nature, de partir en trek avec juste mon sac à dos, qui font que j'ai appris à identifier ces signes-là. Il y a eu bien sûr mes lectures avec Ray Mears, qui est un spécialiste du bushcraft, et puis Tristan Goulet, qui est un spécialiste mondial de la navigation naturelle, le fait de s'orienter sans boussole. Et un peu, bien sûr, ma formation en tant qu'enseignant, puisque j'ai eu un parcours scientifique, donc la botanique, la mycologie, la géologie, tout ça, ça fait partie de ce que j'ai pu apprendre. Et en fait, c'est un peu un condensé de tout ça, pour essayer de proposer aux lecteurs des clés accessibles pour comprendre le monde qui les entoure.
Oui, et puis on sent que vous avez le plaisir à le partager, puis vous êtes très clair, vous donnez des définitions au départ, puis après on élargit sur chaque thème. On démarre par notre planète, une petite planète bleue dans un ciel noir, vous dites. Ça nous apprend à regarder les étoiles un petit peu, c'est ça? cette première partie ?
Alors, c'est, oui, par exemple, discriminer les objets du ciel nocturne, faire la différence entre les étoiles, les constellations, les astérismes, les satellites, les différentes planètes du système solaire qu'on peut observer à l'œil nu, apprendre à lire les phases de la Lune et du coup, qui ont un rapport forcément avec les phénomènes de marée. Donc, ça se en fait, ce qu'on voit déjà dans le ciel, ça traduit l'orbite de notre planète autour de notre étoile, le Soleil, mais ça se traduit immédiatement en fait sur les paysages et sur les rythmes de la nature également.
Et vous nous apprenez un petit peu à décoder les nuages aussi pour comprendre la météo. Alors j'ai découvert que certains nuages qui avaient une espèce de, je sais pas quoi, un petit chapeau très blanc là, vaporeux, ça veut dire qu'il y a de la neige, c'est ça, ou de la glace au-dessus. Que quand c'est très noir, ça veut dire qu'il va pleuvoir. C'est hyper intéressant. Vous nous expliquez donc, aussi les stratos.
Il y a ces nuages qui sont assez directs, c'est-à-dire que quand on voit le sommet vaporeux d'un cumulonimbus, on se doute que les précipitations ne vont pas tarder. Et puis il y a des indices un petit peu plus un petit peu plus long terme, on va dire, même si ça ne dépasse jamais 48 heures. Mais ces petits nuages vaporeux en forme de crochet qu'on appelle les cirrus, dans leur variété ou une sinus en plus, qui ressemblent vraiment à des virgules, indiquent un changement de temps. Que ce soit en bien ou en dégradation, hein, mais c'est à échéance de 48 heures.
On touche le sol aussi, qui pour vous, c'est l'ADN quand même, la roche, quoi, l'ADN du sol. J'aime bien parce qu'il y a des petits trucs, le test du boudin, pour définir quel est le type de sol sur lequel on est, en fait. Savoir s'il est calcaire, s'il est sableux, etc.
Ouais, exactement. Alors les roches, c'est vrai que dans les guides naturalistes, c'est quelque chose qui est mis de côté très souvent parce que ça paraît aride, les roches ne bougent pas. Et en réalité, c'est elles qui vont dicter vraiment l'implantation de la vie, que ce soit les plantes ou les animaux après, puisque c'est elles qui vont former les sols. Et le test du boudin, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous très facilement en prélevant un petit échantillon de terre, en le mouillant tout doucement, et puis c'est d'après vos sensations, parce que c'est à ça aussi que j'invite les lecteurs, c'est à se reconnecter vis-à-vis de leurs sensations, pour essayer de déterminer si le sol est plutôt argileux, sablonneux, limoneux, ou qu'il contient beaucoup d'humus.
C'est important même dans son propre jardin, pour savoir ce qu'on va planter, parce que vous nous décrivez aussi des plantes qui nous servent à savoir si un sol est calcaire, s'il est sableux, s'il est riche en humus. Selon la plante que l'on va trouver dans la nature, on va savoir à peu près quel est le type de sol qui est là.
Oui, et puis il y a des indicateurs qui sont vraiment solides. Si vous voyez des touffes de joncs épars en bord de chemin, vous savez que c'est un endroit où il vaut mieux pas camper, parce que c'est un terrain qui va retenir énormément l'eau, donc très probablement argileux, mais toujours est-il que c'est un terrain où l'eau a tendance à s'accumuler. Oui. Un sol mal drainé, par exemple.
D'accord. J'ai découvert aussi dans votre livre qu'il y avait des plantes, c'est le lièvre et la tortue. Il y a des plantes lièvres, il y a des plantes tortues. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pour nos lecteurs, parce que c'est hyper intéressant aussi, quand même.
Oui, alors là, il s'agit de comprendre, en fait, le cycle de vie des plantes. Alors, le cycle de vie, ça peut être des plantes annuelles, bisannuelles, des plantes vivaces. Mais il y a aussi toutes ces stratégies évolutives, en fait, qu'ont développé les êtres vivants pour s'installer dans les milieux et le coloniser et s'y pérenniser. Et il y a des plantes, du coup, qui vont essayer de réaliser leur cycle de vie le plus rapidement possible, produire énormément de graines pour pouvoir s'installer et prendre de vitesse en fait leurs concurrentes. Et il y a d'autres plantes qui vont prendre leur temps parce qu'elles ont d'autres moyens en fait pour aller coloniser tranquillement le milieu. Et du coup, en distinguant ces différents types de plantes, vous pouvez vous renseigner sur la santé des écosystèmes. Est-ce que c'est un écosystème qui est relativement récent, par exemple une friche industrielle qui a été abandonnée, avec certaines plantes qui vont immédiatement s'installer là, prendre tout de suite les premiers bouts de terrain libres et essayer de se développer, ou alors est-ce que c'est un terrain qui est un peu plus âgé, dans lequel certaines plantes ont eu largement le temps de se développer et vont pouvoir vous donner comme indication voilà, que le terrain est ancien.
C'est là qu'on voit aussi toute l'intelligence de la nature, avec ces plantes qui diffusent plus loin leurs graines, qui se débrouillent pour qu'elles soient plus éparpillées, d'autres qui en ont moins besoin, qui peuvent faire des graines qui tombent directement à côté. Je crois que c'est aussi ça, les lièvres et les tortues, elles n'ont pas la même façon d'envoyer leurs graines, quoi, de se développer.
C'est une histoire de concurrence, donc c'est une histoire d'évolution, en fait.
On apprend des tas de choses, hein. On pourrait rester des heures à discuter, rien qu'avec votre livre, mais par exemple sur les arbres, moi j'étais ravi de découvrir, vous nous expliquez comment ça pousse. C'est vrai qu'on imagine que ça pousse comme un peu comme un humain, mais en fait non, vous nous expliquez que c'est un peu comme dégodé, comme les uns sur les autres. C'est pour ça que quand on voit un clou qui a été planté en 1895 sur un arbre, il est toujours à la même hauteur, en fait. Il n'a pas grandi avec l'arbre.
Ouais, c'est ça. C'est ça, moi j'avais visité un village près de Douarnenez, le village des Plomards, qui était un village de pêcheurs en fait, et il y avait une légende qui disait que les clous qu'on voyait plantés tout en haut des chênes avaient initialement été plantés à hauteur d'homme, et que les marins utilisaient ça pour faire sécher leurs filets, mais en fait c'était totalement faux. Ils ont toujours été plantés à plus de 10 mètres du sol, justement pour étaler les filets, parce que les filets sont quand même des relativement grand, et la croissance d'un arbre c'est d'abord en longueur vers le haut, et ensuite une fois que le tronc est établi, il ne fait que grandir en épaisseur, et c'est pour ça aussi que parfois il englobe les panneaux routiers ou les petites cicatrices, les gravures que les amoureux transis écrivent sur les écorces par exemple.
Oui, il grandit aussi en épaisseur, mais il y a deux façons de grandir en épaisseur, non? Alors je ne me rappelle plus exactement, mais il y a une qui part du centre et qui va vers l'extérieur, et une autre qui part de l'extérieur et qui va vers le centre du tronc. C'est à peu près ça,
ouais, en quelque sorte, gros. Ouais, ça dépend si on considère le bois, les rayons du bois, quel type de bois, etc.
Et même pareil, cette intelligence des arbres qui économise leur énergie, c'est-à-dire que quand il n'y a plus besoin de certaines branches, elles tombent. Et ça nous permet de découvrir qu'il y a des yeux dans les arbres. Ça, je ne les avais jamais remarqués.
C'est des cicatrices de l'écorce, en fait, qui sont très visibles sur les arbres à écorce relativement lisse, comme les érables, par exemple, ou les charmes. Et en fait, dans la nature, tout ce qui coûte trop cher doit être abandonné. Donc un arbre, il doit entretenir ses branches. Si la branche ne lui rapporte pas suffisamment d'énergie lumineuse, il va tout simplement la laisser tomber. Donc, sur le principe du garrot, il va la priver de sève, et petit à petit, l'écorce va se desquamer. Le bois va pourrir dans certains cas, mais en tout cas, la branche va se détacher. Et ces cicatrices-là, elles vont être très visibles aux endroits où les branches ont été le plus abandonnées. Et très souvent, ce sont les branches basses qui sont situées au niveau du sud. Parce que c'est depuis le sud que nous parvient le plus de soleil. Et donc, c'est depuis le sud que l'arbre a le plus intérêt à développer des branches. Et du coup, les branches, lorsqu'elles sont trop basses, elles sont ombragées par les branches qui sont au-dessus d'elles, et elles doivent être abandonnées. Du coup.
D'accord. Bah, le sud, c'est souvent ce qu'on découvre, comment on peut le découvrir à travers votre livre, selon même la position de fleurs sur une branche, l'arbre, les feuilles tournent très souvent vers le sud. C'est intéressant de voir toutes ces facilités, toutes ces façons de découvrir où est le sud. Personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça servirait, mais vous allez peut-être nous l'expliquer. Pourquoi on cherche le sud en permanence ?
En fait, parce que dans notre hémisphère, le sud, c'est la direction du principal ensoleillement. Donc, le soleil, grosso modo, ça dépend des périodes de l'année, se lève à l'est, passe le plus clair de son temps au sud en étant parfaitement au sud à la mi-journée, puis il va se coucher à l'ouest. Et en fait, ça a eu un intérêt par le passé, parce qu'en fait, nos ancêtres ne se sont remis qu'à des indices naturels pour pouvoir s'orienter, se déplacer et conquérir en fait tous les continents. La boussole, en tant qu'objet de navigation, n'a été inventée qu'au XIIIe siècle en Chine. Donc ça veut dire que pendant des milliers d'années, l'homme s'est contenté d'observer la nature pour pouvoir s'orienter.
Et les étoiles aussi, hein, on le voit au début du livre. Alors j'ai vu que vous aimiez particulièrement le ginkgo. C'est pas vraiment un arbre qui pousse chez nous, ça?
Non, c'est un arbre importé qui est très élégant et qui est surtout très robuste.
D'accord, et je crois qu'on fait de la tisane avec...
Il a de grandes qualités pour améliorer la circulation, donc c'est très indiqué pour les problèmes de mémoire, pour essayer d'augmenter un petit peu nos capacités cognitives, et puisqu'il fluidifie aussi le sang, il est indiqué dans les cas de varices ou d'hémorroïdes.
D'accord, super. Et par contre, il y a un arbre qui est bien de chez nous et dont vous consacrez un bon passage du livre, c'est le bouleau. On voit partout dans les magasins bio de la sève de bouleau. En ce moment, alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais vous nous montrez qu'il y a pas mal d'utilité du bouleau, qu'il est absolument précieux cet arbre.
Ouais, alors le bouleau, c'est l'arbre couteau suisse dans nos contrées. Et en fait, là, c'est le lien avec ma pratique du bushcraft, c'est qu'en bushcraft, le bouleau, on l'utilise pour allumer un feu, son écorce, on peut l'utiliser pour réaliser des contenants. Les branches sont parfaites également en tant que petit bois, mais on peut confectionner des balais, les racines sont utiles pour réaliser des cordages. En fait, le bouleau, je trouve que c'est l'exemple même de cette intelligence qu'ont eu nos ancêtres de s'approprier les ressources naturelles et d'essayer de les utiliser au mieux. Et en fait, c'est un arbre qui offre des dizaines et des dizaines d'applications, que ce soit simplement en tant qu'indicateur de l'environnement, mais aussi en tant que ressource pratique. On peut utiliser des objets pour se chauffer, pour s'alimenter. Le bouleau a des dizaines et des dizaines d'applications.
Pour se laver, apparemment, on fait du savon aussi, avec les feuilles. C'est incroyable.
Il y a un passage où vous
expliquez comment réaliser du brai de bouleau, mais je n'ai pas compris du tout ce que c'était que le brai.
Alors le brai de bouleau, c'est une extraction que l'on réalise en faisant une pyrolyse. En fait, on récupère l'écorce que l'on fait rentrer en combustion, mais en la privant d'oxygène, et on va en extraire des huiles. Et ces huiles, en fait, sont utiles que ce soit pour graisser les cuirs ou les lames de couteau, mais ça peut aussi servir d'anti-moustique sur le terrain.
Ah, ça c'est très intéressant, surtout quand on est en forêt le soir, à la nuit tombée. Il y a aussi une partie où on apprend, vous nous montrez comment on peut regarder avec les jumelles, comment quand on est en groupe, on indique un point pour pouvoir regarder tous dans la même direction, en quelque sorte. Aussi, comment écouter la nature. Et là, on découvre que c'est fabuleux. Rien qu'avec l'oreille, on peut découvrir des tas de choses, quoi.
Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on se balade dans la nature, alors on imagine toujours qu'on se balade en forêt, dans un endroit relativement dense où les troncs, les arbres, les arbustes peuvent nous masquer la vue. Et en réalité, en s'en remettant à nos oreilles, on peut découvrir bien davantage d'informations qu'avec nos yeux. Il y a, par exemple, sans aller dans la reconnaissance très fine des espèces d'oiseaux, rien que d'écouter le chant des oiseaux, quelle que soit leur espèce, et même sans aucune connaissance, vous allez tout de suite pouvoir reconnaître si c'est un cri d'alerte, parce que quelle que soit l'espèce d'oiseau, un cri d'alerte véhicule quand même cette sensation de stress, cette sensation de menace, alors que le chant habituel des oiseaux, c'est quelque chose d'assez paisible et d'assez gai, en fait. Et rien qu'en se connectant à ces deux types de chants d'oiseaux, on arrive à percevoir en fait ce qui se déroule dans notre environnement. Est-ce qu'il y a d'autres humains qui approchent, ou au contraire, est-ce qu'on est tout seul dans la parcelle? C'est vraiment une prise de conscience qui est très intéressante.
On sait que ces cris d'oiseaux servent aussi aux autres animaux. Un lapin sait reconnaître un cri d'alerte et va se cacher si sait qu'il y a une buse qui arrive et qu'un oiseau l'avertit de ce danger. Écoutez, vous avez changé mon regard dans la nature. Alors, ça me rappelle un peu le début de votre livre. Vous dites que vos amis ont peur d'être en voiture avec vous parce que vous êtes tout le temps en train de regarder ce qui se passe sur les bords de la route, etc. Mais là, c'est un petit peu pareil. Depuis que j'ai lu le livre, quand je regarde la nature, j'ai l'impression de lire quelque chose, quoi, de me dire, tiens, ça veut dire ça, le nuage qui passe comme ça, c'est hyper intéressant, en fait. Vous me permettez de voir les choses différemment.
Eh ben, c'est que l'objectif du livre est rempli, et c'est aussi pour fermer la boucle avec l'hypothèse Gaïa, c'est qu'en fait, en comprenant que tout est en interaction, on comprend que quelque part dans la nature, rien n'est là au hasard, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. C'est qu'on comprend que la nature, c'est pas un grand fouillis de différentes plantes, animaux, champignons, etc. Au contraire, chaque espèce va être implantée à un endroit bien précis, et on arrive à comprendre en fait les mécaniques qui sont derrière, et ça ne peut que enrichir chacune de nos sorties. Ouais.
En tous les cas, vous avez enrichi les miennes. Je conseille à nos auditeurs, s'ils aiment la nature et s'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus, apprendre à décrypter les secrets du ciel, des paysages, de la faune ou de la flore, d'aller chercher votre livre, Lire la nature. C'est aux éditions Solar, et c'est vous qui l'avez écrit, Alban Cambe. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
Merci à vous.